Est-ce que vous croyez que le Seigneur peut nous donner les moyens de réaliser ce projet? Oh, alléluia. Alors nous allons tous ensemble prier et nous engager à prier jusqu'à ce que ce projet devienne une réalité palpable. Oh, alléluia. Prions tous ensemble pour ce projet. Oh Dieu, oh Dieu, rien n'est impossible à toi. Nous voulons une fois de plus, Seigneur, implorer ta grâce sur ce projet. Seigneur, une fois de plus, nous nous tournons vers toi car nous savons qu'avec toi, tout est possible. Tu es tout pour nous, tu es nos finances, tu es notre architecte, tu es tout, Seigneur. Merci de nous donner les moyens de pouvoir très bientôt démarrer les travaux. Seigneur, merci, ô Dieu, de susciter en nous la foi dont nous avons besoin pour pouvoir, Seigneur, porter ce projet jusqu'à sa réalisation. Dans le nom de Jésus-Christ, nous nous élevons contre toute opposition. Dans le nom de Jésus-Christ, alléluia. Que ce projet devienne une réalité pour chacun de nous. Que nous puissions très bientôt démarrer les travaux dans le nom de Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Seigneur, merci car ce projet nous vient de toi et nous sommes convaincus que puisque cela vient de toi, eh bien nous allons tôt ou tard finir, oh Dieu, par le réaliser. Aide-nous, Seigneur, à avancer par la foi. Aide-nous à continuer à avoir confiance en toi, car avec toi, tout est possible. Merci pour tout. Merci aussi, Seigneur, de préparer nos cœurs à recevoir ta parole. Bénis ton serviteur. Donne-lui la force, Seigneur, dont il a besoin pour pouvoir proclamer ta parole. Révèle-le de ton autorité. Révèle-le de ta puissance. Répands sur lui l'onction de ton esprit. Afin que, Seigneur, tout ce qui sortira de sa bouche, ô Dieu, soit des pensées qui viennent de ta part et que ces pensées puissent trouver des cœurs bien disposés à les recevoir et à les mettre en pratique. Seigneur, merci. Merci pour tout. Merci, Seigneur. Parle-nous au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, merci de continuer à prier. Si vous voulez prendre, nous reviendrons bientôt avec des programmes bien précis d'intercession par rapport à ce projet. Mais en attendant, donc, vous pouvez toujours avoir comment le Seigneur peut vous inspirer de prendre du temps dans la prière seul pour intercéder pour ce projet. Et donc, n'hésitez pas. Nous sommes aujourd'hui le 26 février. C'est le dernier dimanche de ce mois de février, puisque les dimanches prochains seront déjà au mois de mars. Et nous rendons grâce à Dieu pour ce mois, car ce mois aura été une occasion pour nous de compter une fois de plus sur lui. Un mois où nous l'avons vu à l'œuvre autour de nous, nous l'avons vu à l'œuvre dans nos familles, nous l'avons vu à l'œuvre dans nos activités. Un mois où nous avons expérimenté certains accomplissements de sa parole, de ses promesses qu'il nous avait faites. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et puisque c'est le dernier dimanche, nous allons aujourd'hui aussi terminer donc avec ce chapitre du Seigneur comme étant le vrai cep, c'est-à-dire la vraie vigne, et nous, les sarments, c'est-à-dire les branches de la vigne. Alléluia. Les sarments ne peuvent porter du fruit que dans la mesure où ils restent attachés au cep. S'ils se révèlent comme étant le vrai cep, c'est qu'il y a il y en aura des personnes qui, manipulées par le diable, des personnes sous l'inspiration démoniaque, se présenteraient comme étant des cèpes et attireraient pas mal de monde. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. N'oubliez pas, ce dont nous avons besoin, c'est d'une relation, non pas avec une religion, non pas avec une assemblée, même si l'assemblée est appelée à occuper une certaine place dans notre vie, mais ce dont nous avons besoin, c'est d'avoir une relation puissante, vivante, profonde et intime avec le Seigneur. Alléluia. D'où, une fois de plus, nous revenons sur notre thème. Jésus est le vrai cep et nous sommes les sarments. Nous allons relire très rapidement Jean 15, c'est donc le quatrième épisode, et la semaine prochaine, nous allons démarrer avec quelques pensées en rapport avec justement cette relation que nous sommes appelés à avoir avec le Seigneur, relation de laquelle dépendent toutes les bénédictions dont nous avons besoin. Jean 15, à partir du premier verset, nous lisons « Moi, dit le Seigneur, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes émondés à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, dit le Seigneur, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure sur le cep, de même vous non plus si vous ne demeurez en moi. Moi, poursuit-il, je suis le cep, vous les sarments. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis l'on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Quel sort terrible pour un sarment qui aurait eu toutes les occasions de rester attaché au cep, mais qui, hélas, par une vie de débauche, une vie d'impudicité, une vie d'idolâtrie, une vie marquée par le péché, ce sera donc détaché du sarment et finira par sécher. Verset 7, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits et vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, comme j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Et enfin, 1 Corinthiens, chapitre 1er, juste un verset. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Voilà donc le premier appel, le plus grand appel que le Seigneur adresse ou que la parole de Dieu adresse aux disciples du Christ, ce que nous soyons en communion avec qui? Avec le Seigneur. Comment être en communion si nous n'avons pas une relation qui repose entièrement sur lui, une relation qui est portée par une vie d'obéissance à sa parole? Nous allons encore une fois de plus revenir donc sur la principale vérité par rapport à cette image de la vigne et des sarments. Image qui nous montre que si le sarment existe, c'est pour demeurer sur le cep. Si le sarment existe, c'est pour porter des grappes de raisins. Et il ne peut porter des grappes de raisins, il ne peut porter du fruit, encore plus de fruits et beaucoup de fruits, que dans la mesure où le sarment, eh bien, restera attaché au cep. Dans la mesure où le sarment aura une relation de plus en plus profonde avec le cep. Gloire au Seigneur. Et la fois dernière, nous avons donc examiné cette relation à laquelle le Seigneur nous appelle, à la lumière de sa propre relation avec son Père. Ce qu'il a été au jour de sa chair ici-bas par rapport à son Père, eh bien, c'est ce que nous sommes appelés à être. Alléluia. Tel il a été, tel nous sommes appelés à être. Tel il a marché, tel nous devons aussi marcher. Alléluia. Donc Jésus reste en tout le modèle par excellence, la référence absolue. Nous ne pouvons pas, mes amis, expérimenter Dieu, connaître le Dieu de la Bible, connaître ce Créateur de toutes choses, expérimenter sa puissance, si nous n'entrons pas dans une relation profonde avec ce Dieu-là, si nous n'entrons pas dans une relation de grande proximité avec ce Dieu-là. Et cette relation n'a lieu uniquement en Jésus-Christ et par Jésus-Christ seul. Gloire au Seigneur. Et donc, nous ne pouvons pas comprendre cette relation à laquelle le Seigneur nous appelle. Nous ne pouvons pas comprendre le bien fondé, les avantages, les conséquences extraordinaires de cette relation, le type de relation auquel il nous appelle, le genre de relation, eh bien, que nous sommes appelés à entretenir avec le Seigneur, si nous ne regardons pas à la relation que lui a eue au jour de sa chair, c'est-à-dire lorsqu'il s'est incarné, c'est-à-dire lorsqu'il est venu sur cette terre, quel type de relation a-t-il eu avec ce Dieu qu'il n'a cessé d'appeler mon Père? Alléluia. Et ce, à juste titre. Ceci donc est important. Ça nous permettra de comprendre alors la nature de la relation, mes amis, que nous sommes appelés à avoir avec le Seigneur. Et comme je l'ai dit, si nous ne comprenons pas cela, nous passerons à côté de notre raison d'être ici-bas. Voyez-vous, si nous ne comprenons pas ce type de relation, nous risquons, eh bien, mes amis, d'avoir une religion morte. Voyez-vous, nous risquons d'être des hommes et des femmes qui végètent ou qui végéteraient dans une existence terne, semblable à des roseaux qui seraient ballottés par toutes sortes de vents, par toutes sortes de tempêtes. Et pour comprendre la relation qui a uni le Seigneur à son Père quand il est venu sur cette terre, eh bien, qui est bien placé, quoi de mieux que de nous tourner vers le Seigneur lui-même et de lui donner et de lui poser la question. Il est bien placé pour nous, comment on dit, pour nous décrire, voilà, nous décrire cette relation qu'il a eu à entretenir avec ce Dieu, le Dieu de Moïse, le Dieu d'Israël, qu'il n'a cessé d'appeler son Père. Qu'est-ce que lui, Jésus, nous dit à ce propos? Et comment parlait-il à son Père? Sa manière de parler avec son Père, sa manière d'agir avec son Père, le cœur à cœur entre lui et son Père, eh bien, va nous aider à comprendre le genre de relation, mes amis, auquel nous devrions absolument aspirer si nous voulons expérimenter pleinement notre raison d'être ici-bas. J'ai attiré votre attention sur une histoire pour nous montrer la proximité, l'étroitesse, pour nous montrer l'intimité, la relation que le Seigneur avait. Lui-même n'a cessé d'appeler Dieu son Père. C'est donc un vocable qui est omniprésent dans les évangiles. Voyez-vous? Et ce vocable est toute une révélation de la nature filiale, de la nature intime qu'il avait avec son Père. Dans Jean 5, il est question de cet homme qui était malade depuis 38 ans. C'était un homme infirme, un paralytique, un homme grabataire qui ne pouvait pas marcher, donc on le mettait sur un grabat, sur un vieux lit, et puis on l'amenait à la porte, comme à la piscine de Bethesda, là à Jérusalem, parce que un ange descendait de temps à autre, nous dit la parole, et agitait l'eau. Et celui, le malade qui plongeait en premier dans l'eau agitée par l'ange, expérimentait la guérison, quelle que soit sa maladie. Et donc, c'est ainsi que nous retrouvons, dans ce chapitre de Jean 5, une concentration des malades, là, à la piscine de Bethesda, qui veut dire maison de miséricorde. Et là, il y avait un homme, grabataire, depuis 38 ans, malade, infirme, qui était là. Il n'avait personne pour pouvoir le prendre et le jeter dans la piscine. Personne. Jusqu'à ce que le Seigneur passe par là. Alléluia. Jusqu'à ce que le Seigneur l'approche. Et puis, il opère un miracle. Il lui dit, lève-toi, prends ton lit et va. Et sur le champ, cet homme va se mettre debout. Oh, alléluia. Cet homme va marcher, complètement libéré de son infirmité. C'était le jour de sabbat. Et pour les juifs religieux, c'était inacceptable. Comment cet homme pouvait-il se permettre de violer le sabbat? Vous voyez la religion, mes amis? Un homme malade, grabataire, Il expérimente la guérison. Les Juifs lui disent, non, tu ne peux pas prendre ton lit. Reste là, puisque c'est le sabbat. Et une des leçons que le Seigneur va leur donner, il va leur dire ceci, « Mon Père travaille, moi aussi je travaille. » Dieu n'a pas de sabbat. Ce n'est pas parce que c'est le dimanche que Dieu ne ferait rien, qu'il aurait les bras croisés. Dieu est à l'œuvre, alléluia. Peu importe le jour, peu importe la semaine, peu importe le mois, peu importe où qu'on soit en hémisphère nord ou sous les tropiques, eh bien Dieu est à l'œuvre. Dieu n'est pas lié par ça. Mais pour les juifs religieux, pour les traditionnalistes, pour les gens qui étaient complètement omnubilés, aveuglés par leur religiosité, c'était inacceptable que Jésus fasse le miracle un jour de sabbat. Et puis en plus, et c'est ça une des leçons dans ce texte, que Jésus non seulement viole le sabbat, mais qu'il appelle Dieu son propre Père, se faisant du coup égal à Dieu. Pour eux, mes amis, c'était un blasphème intolérable. Pour eux, c'était un crime de lèse-majesté. Ce n'est pas possible. Et c'est là qu'il leur dira, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire par lui-même, mais seulement ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait également, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Pour arriver à voir ce que le Père faisait, il fallait une relation intime. Oh, alléluia! C'est ainsi que tout au long de sa vie terrestre, le Père, comme nous allons le voir très brièvement aujourd'hui, son Père a occupé une place importante, une place extraordinaire dans sa vie. Alléluia. Il n'a cessé de l'appeler Père. Et comme je l'ai souligné la fois dernière, ce vocable-là, en lui-même, est déjà une révélation de la nature de relation que le Seigneur avait avec son Père. La nature de relation qu'il entretenait avec ce Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Moïse, le Dieu de Jacob, d'Isaac, etc., eh bien, lui arrive à l'appeler Père. C'est la plus grande révélation qui soit. Oh, alléluia. Vous n'êtes pas convaincus. Mes amis, rien que dans l'évangile de Jean, je me suis amusé hier à compter, à partir du chapitre 14 de l'évangile de Jean 14, 15, 16 et 17, eh bien, le vocable Père, qu'il appelle mon Père, Père Saint, Père Juste, eh bien, ce vocable revient 46 fois. Vous vous rendez compte? 46 fois. Et dans tout l'évangile, moi, j'aime travailler. C'est beaucoup plus facile de prendre une concordance. Hein. Ça, c'est pour les paresseux. Vous prenez une concordance, vous cherchez Père, eh bien, vous avez toutes les occurrences. Vous voyez? Mais c'est mieux de vous lancer vous-même dans cette étude. Alléluia. Eh bien, rien que dans l'évangile de Jean, c'est presque 80 fois que ce vocable Père apparaît. C'est la plus grande révélation qu'il a amenée à l'humanité. Cette humanité déchue, l'homme pécheur, qui jusque-là n'était qu'une créature esclave du péché, une créature rebelle à son Créateur. Jusque-là, l'homme qui avait perdu toute sa dignité après avoir péché, jusque-là, cet homme dont la vie était semblable à une vie marquée par toutes sortes de péchés, jusque-là, cet homme-là, eh bien, séparé de Dieu, voilà que Jésus vient, il prend cet homme qui jusque-là n'était qu'une simple créature, il lave cet homme dans son sang, il le restaure et il l'amène à Dieu, et désormais, par Jésus, en Jésus-Christ, cet homme qui n'était qu'une simple créature parmi d'autres créatures, peut désormais appeler Dieu mon Père. Mais malheureusement, aujourd'hui, les gens essayent de se distraire en cherchant les différents titres, les différents attributs, les différents noms du Seigneur, du Dieu de la Bible, en hébreu. C'est bien. Mais tous ces titres-là, c'est simplement pour nous dire qui est notre Père. Je l'ai dit la fois dernière. Le président, il est président pour nous. Il est le chef de l'État, le chef de l'armée, le garant des institutions, le père de la nation. Il a plusieurs titres, mais quand il rentre chez lui à la maison, les enfants l'attendent, Daddy. Ça serait inconcevable qu'un enfant dont le papa serait général, général 4, 5 ou 6 étoiles, qui serait chef d'état, qui serait chef d'état-major, qui serait commandant de ceci, ça serait anormal qu'un enfant voyant son père venir avec tous ses signes, ses galons, et se tenir devant son père en lui disant, mon général, chef d'état-major, mon colonel, est-ce possible? Ça, tout ça, ce sont des titres. L'enfant voit, il dit, oh là là, mon père est bien garni. Sur ses épaules, on trouve des galons. Il a encore des trucs sur son cœur. Il se présente bien. Mais c'est bien tout ça. Mais pour moi, qui est-il? Mon papa. Si un seul attribut de Dieu, Adonai Iré, Adonai Nissi, Adonai Shalom, Adonai El Olam, si tous ces titres pouvaient sauver, Jésus serait donné la peine de nous les dire. Alléluia. Les Juifs avaient ces titres. Ils ont échoué lamentablement. Personne n'a pu accomplir la loi. Et c'est dommage qu'aujourd'hui, vous avez des pasteurs qui essayent de ramener les gens à l'alliance du mont Sinaï. C'était l'alliance de la mort. Personne n'a pu, en Israël, observer toute la loi. Ils ont lamentablement échoué. Car personne alors, ne peut accomplir toute la volonté de Dieu. L'alliance dont nous avons besoin, c'est l'alliance de Golgotha. À la croix, il a tout accompli. Alors vous voyez des pasteurs avec des châles et tout ça, ça peut impressionner. C'est 0-0-0. C'est de la distraction. Alors vous les voyez avec des châles, vous les voyez avec des toques. Ils sont en train de judaïser. Alors que ceux qui nous ont laissé l'évangile, entre autres l'apôtre Paul, a combattu ce genre de pratiques. Il a même été plus loin et dit, celui qui n'est pas juif, qui s'est converti, il n'a pas besoin d'être circoncis. Car ce n'est pas la circoncision du corps, dans le corps, qui est quelque chose, mais c'est la circoncision du cœur. Et le cœur est circoncis lorsque Jésus vient dans une vie. Mes amis, notre Père, 46 fois, 14, 15, 16, 17, en 4 chapitres, c'est tout le temps le vocable, mon Père, notre Père, alléluia. Tous ces passages, et tant d'autres, mes amis, mettent en évidence l'union profonde, la relation intime entre le Père et le Fils, mettent en exergue la relation spéciale que le Seigneur entretenait avec ce Dieu qu'il appelait son Père. Oui, quand il s'adresse à Dieu, Jésus l'appelle Père. Et cela nous montre, mes amis, toute la relation qu'il avait, une relation intime. Depuis sa première parole, écoutez-moi bien, depuis sa première parole, alors qu'il n'a que 12 ans, à sa dernière parole sur la croix, avant de rendre l'esprit, eh bien, son Père tient dans sa vie la première place. Dans Luc, chapitre 2, versets 46 à 49, le contexte, c'est que le Seigneur n'a que 12 ans. Il est descendu avec ses parents pour la fête à Jérusalem. Et puis les parents reprennent la route, puisqu'ils habitaient la Galilée, donc au nord. Ils ne se rendent pas compte que Jésus n'était pas avec eux. Et puis ils se mettent à les chercher. Ils les cherchent partout. Ils essayent de demander aux parents, aux gens de la famille, s'ils l'avaient vu. Personne dit non, personne ne l'a vu. Alors finalement, ils se décident de revenir à Jérusalem. Et quand ils reviennent à Jérusalem, à partir du verset 46 à 49, nous lisons, au bout de 3 jours, ils, ce sont les parents du Seigneur dans la chair évidemment, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les questionnant. Tous ceux qui l'entendaient étaient surpris de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Sa mère lui dit, « Enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Voici que ton père et moi, donc Joseph, nous te cherchons avec angoisse. » Écoutez maintenant la réponse du Seigneur. À 12 ans, il leur dit, « Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de... » Déjà à cet âge-là. Et ils viennent. Ils mettent en évidence le lien physique. Mais pour le Seigneur, c'est le lien spirituel qui prime. Voilà. Voilà. Voyez. Il dit, il faut. Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Allons maintenant d'un bond à la fin de sa vie. Ça, c'est au début. Hein. Il n'a que 12 ans. Hein. Il appelle déjà Dieu son Père. Et à la fin de sa vie, sa dernière parole, celle que l'on appelle la septième parole de la croix, eh bien, cette parole est aussi consacrée à son Père. Dans Luc 23, verset 46, Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expire. Depuis ses 12 ans, jusqu'à la croix, sa dernière parole, eh bien, la septième parole de la croix, c'est « Mon Père ». Même là, nous voyons que la relation est toujours là. Gloire à Dieu. Ainsi, mes amis, toute la vie, toute sa vie, la vie de Jésus, du début à la fin, aura été placée sous les signes de la relation Père-Père. Fils et fils, Père. Voilà. C'est tout. Le fait que le Seigneur Jésus emploie, utilise systématiquement le vocable de Père quand il s'adresse à Dieu, sauf à quelques exceptions près, exceptions relevées notamment dans la Passion, dans l'histoire de la Passion, eh bien, le fait qu'il emploie ce vocable systématiquement montre la nature singulière, la nature profonde, la nature intime de sa relation avec son Père. Eh bien, son Père est devenu notre Père. Oh, alléluia. Quand je m'approche de lui, je ne m'approche pas d'un Dieu qui serait là comme un gendarme, qui serait là comme un policier, pour comment me montrer tout le mal que j'ai fait. Oui, son esprit est là pour me le rappeler, mais en même temps, son esprit est là pour me faire entrer dans son amour. Oh, alléluia. Gloire au Seigneur. Eh bien, nous voyons en conclusion que lors de son incarnation, quand il est venu sur cette terre et qu'il a pris la forme d'un homme, le Seigneur Jésus a entretenu avec son Père une relation reposant, mes amis, entièrement sur une communion intime, une communion fondée de fond en comble sur l'amour. C'était une relation d'amour. Et pendant plusieurs dimanches, nous parlerons de l'amour. Sans amour, nous ne sommes que des cymbales sonores. Nous verrons ce que c'est le vrai amour, pas cette caricature d'amour telle que nous la trouvons dans notre monde aujourd'hui. Non, le vrai amour. Et ce vrai amour ne peut nous être révélé que par Jésus lui-même. Oh, alléluia. Une relation fondée entièrement, totalement, de fond en comble sur l'amour. Une relation d'amour en tout et pour tout. Même lorsqu'à Gethsémané, sachant que dans quelques heures, il allait vivre, mes amis, les moments les plus terribles, les plus horribles, les plus douloureuses de son ministère terrestre, c'est-à-dire offrir librement et avec amour sa vie pour l'expiation du péché de l'humanité, même là, en proie d'atroces douleurs et souffrances, Jésus est resté attaché à son Père. Et par amour pour lui, et par amour pour vous et moi, par amour pour l'humanité, alléluia. Cela est important, parce qu'avec le temps, beaucoup d'entre nous ont fini par tisser une relation intéressée avec Dieu. Ceux qui sont appelés au ministère ont fini par transformer cette relation en une relation entre, d'un côté, l'employeur et de l'autre côté, l'employé. Seigneur, j'ai prêché. J'attends maintenant que tu me donnes quelque chose. Seigneur, j'ai fait ceci. Seigneur, tu vois que je suis célibataire. Donne-moi un mari. Tu vois que je suis célibataire. Donne-moi une épouse. Tu vois comment j'évangélise à gauche, à droite pour toi. Mais souviens-toi de moi maintenant. Donne-moi ceci, donne-moi cela. Et nous avons fabriqué, mes amis, des fidèles intéressés. Mais les vrais disciples servent le Seigneur, suivent Jésus par amour. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'ils aient faim, qu'ils mangent, eh bien, ils marchent avec Jésus par amour. Comme lui a vécu dans l'amour de son Père. Lui, l'homme parfait. Lui, l'homme sans défaut, sans tache. Lui, l'homme sans péché. Lui, l'innocence même. Lorsqu'il s'apprête à devenir péché pour nous, pas pécheur, attention. La nuance est importante. Lorsqu'il s'apprête à devenir péché pour nous, comme 2 Corinthiens 5, verset 21 le dit, celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu. Même là, il est resté soumis à son Père, alléluia. Comment réagit-il? Eh bien, Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, que ça ne soit pas ma volonté, mais la tienne. Alléluia. Et là, avant d'expirer, là, il devient péché. Il devient péché. À ce moment-là précis, il y a comme une rupture. Il a tout le péché du monde sur lui, de toute l'humanité. Il y a la coupe de nos péchés, remplie de nos péchés. La coupe des péchés du monde entier qu'il doit boire jusqu'à la lie. Et ceci est quelque chose d'horrible pour un Dieu saint. Et à ce moment-là, il y a comme une rupture. Dieu devient comme son juge, car tout péché doit être jugé. Mais à ce moment-là, il est devenu péché pour que en lui, nous devenions justice de Dieu. Et à ce moment-là seulement, écoutez bien, il appelle, il crie, il dit à Dieu, attendez, voilà, donc, il dit, c'est où c'est encore? Voilà, Matthieu 27, 46, vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani. » Voilà. « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» On peut se dire, pourquoi ne l'a-t-il pas appelé Père? Là, il devient péché et il crie Élie, Élie. Au fait, pour ceux qui connaissent la Bible, il cite le psaume 22, le premier verset, le psaume de David, où David dit « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il montre que sa mort, eh bien, est l'accomplissement de l'Écriture. Paul le dira plus tard aux Corinthiens, 1 Corinthiens 15, Paul dit ceci, écoutez bien. Je vous rappelle, frères, à partir du premier verset, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous demeurez ferme, et par lequel aussi vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Le verset 3 qui nous intéresse. Je vous ai transmis avant tout ce que j'avais aussi reçu. Qu'est-ce qu'il avait reçu ? Christ est mort pour, selon les Écritures. Et là, sur la croix, Élie, Élie, lama sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Il met le lien entre sa mort et la parole de Dieu. Il est l'accomplissement de la parole de Dieu. Alléluia. Celui qui se tient devant Dieu, l'Ancien Testament, tout entre ses mains et il accomplit. Et désormais, la voie est libre. Quiconque croit en lui va au paradis. Alléluia. Il montre le lien entre sa mort et les saintes Écritures. C'est donc le psaume, le psaume 22, alléluia. Donc, mes amis, voilà la relation qui a uni le Seigneur à son Père quand il est venu sur cette terre. Ça a été une relation d'amour. Il n'a cessé de le dire et nous le verrons pendant plusieurs semaines. Et je vous en supplie, faites tout pour suivre ce message. Non pas parce que c'est moi qui vous le prêche, mais plutôt parce que c'est important. La nature de notre relation avec le Seigneur, la qualité de notre relation avec le Seigneur déterminera le genre de vie que nous allons mener. Alléluia. Oui. La qualité de notre relation, eh bien de cette relation-là, de la qualité de cette relation dépend notre bien-être temporel, je l'ai dit la fois dernière, mais également notre mieux-être spirituel. Alléluia. C'est donc la relation qui est importante. Alléluia. Et Dieu, comme nous l'avons appelé, Dieu fidèle, lui qui nous a appelés à la communion, à la relation intime avec son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Voilà, mes amis, il y a encore beaucoup d'autres choses. Nous allons tâcher de le voir quand nous parlerons de l'amour, qui reste in fine la chose la plus importante. Toute la loi de Moïse est accomplie dans ces deux commandements. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est tout. Quand on aime Dieu, on le suit. On croit en lui. On l'obéit. Alléluia. Quand on aime son prochain, on ne va pas convoiter son épouse. Oui ou non? Quand on aime son prochain, on ne va pas convoiter son mari, le mari de l'autre. Quand on aime son prochain, on ne va pas envier le bien de son voisin. On va prier pour son voisin. Qu'on ait rien et que le voisin ait tout, eh bien, on ne ressent aucune animosité, aucune jalousie. Donc, vous voyez, si nous pouvions vivre pleinement l'amour, d'abord sur le plan vertical, c'est-à-dire l'amour envers Dieu, et puis l'amour envers l'autre, envers le prochain, croyez-moi, nous accomplirions toute la loi. Alléluia. Donc vous voyez, la chose la plus importante, c'est que nous puissions mieux connaître le Seigneur. C'est au travers d'une telle relation que nous allons apprendre, que nous allons découvrir ce que c'est l'amour, le vrai amour. Alléluia. Cet amour à propos duquel il a parlé tout au long de son ministère ici-bas. Je suis dans l'amour de mon Père m'aime, je l'aime, etc. Et donc, et là, le dimanche prochain, nous allons déjà introduire ce thème sur l'amour. Alléluia. Que Dieu soit béni. Nous terminons ici. Encore une fois, si je peux revenir très très rapidement sur tout ce qui a été dit, rappelez-vous, notre première visite, nous l'avons effectuée dans la maison du potier. Nous sommes partis dans la maison du potier et là nous avons compris qu'effectivement Dieu est le divin potier et que nos vies sont appelées à être de l'argile. Mais de l'argile qui doit demeurer dans sa main, mais de l'argile qui reste malléable, qui reste modelable. Car une argile dure ne lui servira de rien, n'est-ce pas? Donc il faut que l'argile soit malléable, soit pétrissable, soit modelable, soit façonnable, vous voyez? Et bien avec cette argile, Dieu va donner à nos vies la forme qui lui convient, alléluia. Et pour cela, il faut que nous soyons en relation. L'argile doit rester dans la main du potier. Il y a donc une relation profonde. C'est le potier qui est le maître de son ouvrage. La part de l'argile, c'est de rester dans la main du potier. La part de l'argile, c'est d'être malléable, d'être modelable. Alors le potier, au travers de cette relation, eh bien, fera un vase avec la même argile, fera un ustensile avec la même argile, fera une amphore, fera une tasse, fera une assiette avec la même argile, selon le besoin, tout autour. Alléluia. Et puis nous avons quitté la maison du potier. Nous sommes entrés dans la vigne du Seigneur. Alléluia. Et là, nous avons vu une fois de plus cette relation être mise en évidence par cette métaphore du cep et des sarments. Le Seigneur qui se révèle à nous comme étant le vrai cep et nous comme étant des sarments. Et la relation entre le cep, c'est-à-dire la vigne, la tige de vigne et la branche de vigne, c'est-à-dire le sarment, c'est que le sarment doit rester attaché au cep. C'est en restant attaché au cep que le sarment va recevoir la sève nourricière qui lui permettra de produire, de porter plutôt, car nous le verrons, c'est le Saint-Esprit qui produit le fruit, de porter du fruit, davantage de fruits et beaucoup de fruits. Et c'est au travers de ce fruit que le nom du Père sera glorifié. Et dans les deux images, dans les deux métaphores, c'est encore une fois la notion, la vérité de la relation qui est mise en évidence. Inclinons nos têtes dans la prière. Nous voulons te dire merci, notre Père, pour tout le temps, ô Dieu, que tu nous as donné de nous retrouver autour, Seigneur, de cette réalité ô combien vitale que la relation qui nous unit à toi. Et pour nous amener, Seigneur, à comprendre l'importance vitale d'une telle relation, tu n'as pas hésité à nous parler au travers du potier et de l'argile. Tu n'as pas hésité, Seigneur, à nous parler, ô Dieu, du cep et des sarments. Et dans les deux cas, Seigneur, c'est la relation qui est mise en évidence. Oh, aide-nous à travailler notre relation, à considérer que la relation que nous avons avec toi est appelée à être la priorité des priorités. Car le genre de vie que nous menons est la conséquence de la qualité de notre relation avec toi. Si notre relation s'approfondit chaque jour qui passe, si nous avons une relation de plus en plus grande avec toi, alors nous vivrons de grandes choses en aval. Alors, ô Dieu, nous expérimenterons l'accomplissement de tes promesses, car tu l'as dit dans ta parole, Jean 15, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Aide-nous, Seigneur. Merci pour tout. Merci de bénir maintenant, Seigneur, ces moments réservés aux offrandes, mais aussi aux enveloppes pour la construction du temple. Seigneur, que ta grâce repose sur tous ces cœurs qui, par amour pour toi, qui par amour pour ton œuvre, pour ton Église, Seigneur, donne au Dieu pour que tout cela se concrétise. Bénis chacun de nous, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu.